20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Bonsoir, je ne suis pas un voyou, c'est une citation, je vous rassure. Les informés de France Info passent au scanner ce soir une audition sans histoire d'un Alexandre Benalla plutôt à l'aise, mais qui a laissé des sénateurs sur leur faim. Emmanuel Macron, loin de ce tumulte, est allé rendre hommage aux victimes du terrorisme. Le combat continue, mais avec qui pour le piloter au ministère de l'Intérieur? Nous parlerons gros sous ce soir, avec tout d'abord la facture salée des travaux du Grand Palais et quelques frais de limousine révélés par le Canard Enchaîné, de quoi déprimer les joueurs de l'auto du patrimoine, et l'accord ensuite entre SFR et Canal+ pour lancer un bouquet de chaînes dédiées au football. Le ballon rond était déjà un gros business, va-t-il devenir un luxe? On en parle avec nos invités. Bonsoir Audrey Goutard.
Bonsoir.
Journaliste à France 2, présentatrice de l'Instant T sur France Info. Avec nous ce soir également, bonsoir Driss Haït-Youssef.
Bonsoir.
Président de l'université Léonard de Vinci, docteur en droit, spécialiste des questions de sécurité globale. Invité également Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir Jean-Sébastien.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver, cofondateur et directeur de la publication d'Atlantico. Et avec nous, Isabelle Vera Masson. Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue. Vous êtes directrice du laboratoire communication et politique du CNRS à l'université Paris-Dauphine. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et sur le canal 27 de la TNT. Alors il est apparu détendu, attentif, souriant, presque studieux, il aura fait profil bas, sans jeu de mots, Alexandre Benalla, étoile d'un jour de la télé-réalité politique, en même temps sur toutes les chaînes d'information continue, à commencer par des excuses.
Je voulais vous assurer de mon respect total de l'institution, des institutions, du Sénat et des sénateurs. Et vous présenter mes excuses, monsieur le président Bas, en ce qui concerne les propos que j'ai pu avoir, ce qu'on n'attaque pas les hommes.
Audrey Goutard, des excuses, vous diriez éléments de langage ou sincérité? Parce qu'il faut détendre le sénateur quand même, hein?
Oui, il faut avoir effectivement un public plus ouvert. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sent que dans la première partie de cette séance, tout était préparé. Ces excuses, ce profil bas dont vous parlez. Donc là, on sent qu'il y a un media training, une préparation, et pour avoir effectivement l'assentiment, au moins l'oreille attentive des sénateurs. Ensuite, pour la deuxième partie, je l'ai trouvé plutôt naturel, oui, et plutôt percutant. C'est pas un argument, enfin, pour moi, c'est pas un point de vue positif ou négatif.
C'est une impression.
Il a répondu droit, oui, aux questions, et on sentait que ça, là, il n'y avait pas d'élément de langage.
Jean-Sébastien Ferjou, il vous a convaincu, vous, monsieur Benalla?
À quel point de vue?
Globalement.
Non, mais parce qu'il y a vraiment deux aspects. Il y a la forme, et effectivement, il était plutôt bon sur la forme, et je pense qu'il a été préparé, mais par ailleurs, je pense qu'Alexandre Benalla n'est pas ce qu'on a pu présenter de lui à un moment donné. Il a beaucoup plus de capacité à réagir, à rebondir. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'Emmanuel Macron avait confiance en lui. Maintenant, sur le fond, non, il a eu beau répéter à plusieurs reprises, pour être précis, il y a une question qu'il évite systématiquement et qui, d'ailleurs, on peut se demander pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'implication juridique réelle là-dessus. Il nie systématiquement avoir eu un rôle opérationnel dans la sécurité du président. Et moi, je pense que ça met en lumière la situation.
C'est un peu le fil rouge de cette audition ce matin.
Oui, alors, et c'est le point sur lequel il n'est pas convaincant, pour le coup, parce que les demandes de port d'armes qui ont été faites, à l'époque, ne l'ont pas été faites au motif de sa sécurité personnelle, ce qui est maintenant l'explication qu'il donne. Mais je pense que ça met surtout en lumière la situation délicate dans laquelle il se trouve, lui, à savoir que ses intérêts et ceux d'Emmanuel Macron ne sont pas nécessairement exactement les mêmes, et que pour l'instant, il est encore très entouré par l'Élysée, mais que il faudra voir comment il arrive à gérer ça, parce que il y a une vraie divergence.
Driss Haït-Youssef, on va rentrer dans le détail dans un instant de ce qui a été dit ce matin devant les sénateurs, mais est-ce que Alexandre Benalla a bien fait d'aller s'expliquer? Est-ce qu'il a, selon vous, tout ou partie éteint un petit peu les questions qui étaient sur la table ce matin?
Oui, je pense que incontestablement, le fait d'aller s'expliquer devant cette commission des lois du Sénat est une bonne chose, en tout cas pour lui, et pour aussi la manifestation de la vérité, d'une certaine manière, pour ce qui concerne effectivement les interrogations relatives à la fois au permis de port d'armes, à son rôle auprès du président de la République et de l'organisation de la sécurité au sein du palais de l'Élysée. Parce que ce qui est aussi question dans cette audition, c'est la manière dont fonctionnait. On s'aperçoit, ça plaît pas à un certain nombre de sénateurs, mais c'est comme ça, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de dysfonctionnement majeur en termes de sécurité. On a un président de la République donc, qui est élu, jeune élu, et qui souhaite aujourd'hui fidéliser un certain nombre d'individus qui ont participé à sa campagne. Bon, voilà. Mais j'ai pas le sentiment, en
mais
tout cas,
il n'était pas
dans
un élément du, on va y revenir, mais du dispositif classique, en, au fond, de
en,
protection
en tout cas, lui,
du président.
Il a dit, moi, j'ai pas plus d'éléments que ça, mais en tout cas, lui, dit qu'effectivement, il ne faisait pas partie du groupe du GSPR, il n'était ni policier, ni gendarme.
Mais il a dit, redit.
Et dit, redit, et que sa proximité avec le président de la République, d'ailleurs, il dit bien dans les propos, il dit, non, je n'étais pas policier, gendarme, mais c'est pas à eux, d'ailleurs, d'être le porte-parapluie, le porte-manteau ou le porte-serviette du président de la République. Donc, il dit, j'étais le collaborateur, et donc je donnais des cartes de visite et je récupère un certain nombre d'éléments auprès d'individus, de nos concitoyens qui pouvaient approcher le président de la République. Donc ces explications, en tout cas, ce qu'il a bien voulu poser. Ouais. Et puis après, il y a l'autre aspect qui est de l'information judiciaire dont il appartient aux magistrats instructeurs au pluriel, puisqu'ils sont plusieurs à avoir été saisis et qui feront la lumière sur les agissements.
Ça, c'est l'étape suivante.
Voilà, absolument.
Isabelle Véramasson, vous pourriez parler de clarification ce matin ou quelque chose cloche selon vous?
Alors moi j'ai trouvé que Alexandre Benalla était extrêmement clair, clair comme il le disait tout le temps, précis, à l'aise même s'il était intimidé. D'ailleurs il avait des espèces de répétitions.
Parce que c'est pas rien une commission sénatoriale.
Ce n'est pas rien, c'est un tout jeune homme. Oui. Mais il avait montré ses qualités à ce niveau-là. En tous les cas, je trouve que lorsqu'il avait répondu aux questions pendant le journal télévisé, je crois que c'était TF1, il avait montré aussi qu'il avait des éléments de réponse à la fois sincères, c'est après personnels et politique, lorsqu'il avait répondu, vous vous souvenez, sans avocat, sans conseil, sans demander de relecture, à nos camarades, l'homme et d'avec, qui sont pas non plus des très tendres. Donc il avait prouvé ses qualités et je l'ai retrouvé, comme on l'avait vu à ce moment-là. Non, moi, je ne sais pas, j'ai pas beaucoup de temps pour
nous avons tout le temps, mais on va peut-être, vous savez quoi,
on
je vous propose.
Allez, d'accord, on va je vais arriver si vous le journal parce qu'il y a une chose sur laquelle je voudrais insister.
Ne vous inquiétez pas, on va poursuivre 20h10 sur France Info. Nous reprendrons évidemment tout juste après l'info avec vous, Claire Flochel.
Un musée mémorial va être créé pour les victimes du terrorisme. Emmanuel Macron l'a annoncé lors de la cérémonie annuelle d'hommage aux victimes du terrorisme ce matin aux Invalides à Paris. Le chef de l'État a aussi indiqué qu'une journée nationale de commémoration serait créée. La date controversée fera l'objet d'une concertation avec les associations. L'administration fiscale ne disposera plus du monopole des poursuites pour fraude fiscale. Les députés ont voté à la quasi-unanimité la fin du verrou de Bercy dans le cadre de l'examen en première lecture du projet de loi anti-fraude. L'ONG Save the Children met en garde aujourd'hui dans un rapport contre une famine d'ampleur sans précédent au Yémen. Plus de 5 millions d'enfants menacés. Conséquence du conflit qui s'aggrave entre le gouvernement soutenu par l'Arabie Saoudite et les rebelles houthis soutenus par l'Iran. La reprise des combats avant-hier sur le port stratégique d'Odeida, principal point d'entrée des importations et de l'aide internationale, met en péril l'accès à l'aide humanitaire. La question migratoire au menu du dîner ce soir à Salzbourg. Des dirigeants des 28 pays de l'Union européenne se retrouvent en Autriche, pays qui assure la présidence tournante de l'UE. Un sommet informel demain, il y sera aussi question du Brexit. Et puis Lyon sur la pelouse de Manchester City ce soir, début de la Ligue des champions de football pour le groupe F. Coup d'envoi à 21h.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, Isabelle Véramasson, terminez votre propos.
Oui, parce que, là, je parlais de Alexandre Benalla comme communicant, quand on intervient. Mais ce qui m'a semblé, et Audrey Goutard a raison de le dire, il n'est pas seul, et il a élaboré à la fois des éléments de langage, mais surtout une stratégie, comme ce qui est bien normal, puisqu'il est accusé et doit répondre à une commission. Mais il me semble qu'il s'adresse d'abord à la police et à la gendarmerie. C'est-à-dire que ces propos sont bien sûr faits à l'égard des sénateurs et des politiques et de ceux qui l'ont, mais sa stratégie de défense, c'est de dire à ceux qui probablement sont à la source de ces ennuis, je n'ai pas empiété sur vos plates-bandes, je suis bon garçon qui avait un rôle probablement à la limite de leur travail et de celui qui déclare être le sien, mais je crois que son propos donc s'adressait véritablement aux gendarmes
et à
la police.
On va poursuivre là-dessus parce que des questions évidemment restent en suspens autour de la sécurité du président, autour du fonctionnement des institutions et de la personnalité aussi d'Alexandre Benalla qui a tenu à faire la mise au point, j'appellerais ça ni flic ni voyou. et a cherché à déconstruire ce portrait robot assez troublé dressé au fil des mois dans les médias.
Je ne suis pas un voyou ou je ne sais pas comment on a pu me qualifier encore de petite frappe. Non, ce n'est pas tout à fait le cas. Je n'ai jamais été ni policier, ni garde du corps du président de la République.
Voilà, Jean-Sébastien Ferjou, des mises au point quand même au passage. Ça rebondit un petit peu sur ce que disait Isabelle Véramasson à l'instant. Il tient à le faire savoir, je ne suis pas un policier, d'ailleurs je ne suis pas un voyou non plus.
Oui, mais en même temps, il pourrait difficilement soutenir qu'il est un policier. Et on imagine bien qu'il ne va pas nous dire qu'il est un voyou.
Il pourrait ne pas le dire.
Donc, moi, je comprends qu'effectivement, le portrait qui a été dressé de lui ait pu le heurter et au-delà de ça, qu'il ait été relativement faux. Pour autant, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de zones d'ombre qui demeurent et qui n'ont pas d'ailleurs forcément été abordées pendant les auditions. Il y a la question du contenu de ses coffres-forts. Enfin, il y a quand même un certain nombre de choses où il s'est soustrait à l'enquête de police. Il peut toujours répéter qu'il n'a joué aucun rôle opérationnel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que c'est faux. Il y a des images qui existent et qui montrent que si, il a eu manifestement un rôle opérationnel. Et je pense que ce sujet-là embarrasse profondément l'Élysée. Parce que l'Élysée ne voulait pas qu'il y aille. C'était pas Alexandre Benalla qui ne voulait pas aller à la commission d'enquête. C'était l'Élysée. Et l'idée de l'Élysée, la stratégie juridique de l'Élysée, c'était plutôt de ne pas y aller. Et si ça avait généré une procédure judiciaire, de déposer une question préalable de constitutionnalité pour trancher dans le vif, pour savoir si oui ou non, il y avait le pouvoir législatif empiété sur l'exécutif. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est beaucoup moins clair que ce qu'il a semblé vouloir nous dire. Maintenant, là où il est efficace, c'est que justement, il arrive à convaincre sur le fait qu'il n'est pas la petite frappe qu'on a décrite. Mais ça n'est pas parce qu'il n'est pas la petite frappe qu'on a décrite que pour autant, aucune question ne se pose sur le fonctionnement de l'Élysée.
Jean-Sébastien Ferjou, vous pensez que donc le compte n'y était pas ce matin, juste d'un mot. Pour vous, cette audition n'a servi à rien ?
Tout dépend encore une
parce
fois
que
de
vous
quel
semblez dire
on
qu'au fond, ça n'a répondu à aucune question.
Non, mais si on raisonne en termes de communication, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu strictement juridique et puis un enjeu de communication politique, à la fois pour les sénateurs qui se sont emparés de l'affaire ou les gens qui s'opposent à Emmanuel Macron et pour Emmanuel Macron. Et le grand paradoxe, c'est que finalement, l'avantage pour Emmanuel Macron, c'est que plus personne ne sait vraiment à quoi servent ces commissions d'enquête, parce que je mets au défi les Français de répondre on attend des réponses à quelles questions exactement. En revanche, la communication adoptée par le gouvernement et Alexandre Benalla, pas tellement ce matin parce qu'il faisait beaucoup plus profil bas, est entré en résonance avec l'arrogance du président. Et donc on est dans cette espèce d'entre-deux, et je pense que d'un point de vue strictement juridique, non, il n'y a pas toutes les réponses qu'il y aurait besoin d'avoir.
Audrey Goutard, vous auriez un avis aussi tranché, aussi sévère que celui de votre collègue Jean-Sébastien Ferjou ?
Moi, je voudrais revenir sur quelque chose de plus factuel. L'audition de Benalla aujourd'hui a fait apparaître un point qui me semble important. Quand on connaît un peu l'organisation justement de la sécurité et de la présence d'une sécurité autour du président et de cette organisation qui permet de protéger le président, mais qui lui permet aussi de se protéger, de protéger sa vie privée. On est là. La sécurité, c'est au sens large. C'est ordre public contre un attentat, mais aussi de permettre à un président de la République de circuler et de sortir et de bouger, etc. Benalla a dit ce matin, tous les présidents ont toujours fait appel à des services de sécurité privés, à des hommes comme moi, parfois souvent armés, pour pouvoir se protéger. C'est vrai. Le problème, là, c'est que jusque-là, si vous voulez, tout était... Pour les présidents, ce que j'ai pu connaître, effectivement, les choses étaient plutôt bien organisées, bien réparties. Chacun avait son rôle et on ne se retrouvait pas avec un espèce d'électron libre. Et c'est ce qui apparaît dans l'audition de Benalla, même s'il a essayé de montrer que tout ça était très tenu. Il apparaît quand même qu'il était une sorte de coordinateur, alors qu'il vient du privé, une sorte de coordinateur de effectivement du monde qui circule en matière de sécurité autour du président de la République.
C'est un dispositif qui n'existe pas dans l'organisation traditionnelle de
non,
la
à l'évidence. En tout cas, c'est une question de curseur qui n'a pas autant de poids. Alors.
C'est une question que
Benalla en a eu là.
Alors, il y a une question fondamentale à laquelle Benalla a fini par donner des éléments de réponse. Portait-il une arme et si oui, l'a-t-il fait en présence du chef de l'État ?
Le port d'armes, je vous le répète, n'était pas lié à la sécurité du président de la République, mais à ma sécurité personnelle. Quand je rentrais chez moi, avec mon arme, en l'occurrence un Glock 43, sur moi, jusqu'à mon domicile. Voilà. Alors si j'étais en qualité de précurseur et que je partais de mon domicile directement sur le lieu du déplacement, il a pu arriver que j'ai une arme sur moi. C'est possible, ça a pu arriver.
Driss Saïd Youssef, il y a de quoi s'inquiéter avec un tel aveu.
Non, je ne crois, honnêtement, je ne crois pas. Pourquoi ? Parce que le port d'armes, en tout cas le permis, est un document administratif qui est délivré justement par une autorité administrative, en l'occurrence le préfet de police, et qui juge au regard des éléments dont il dispose, en tout cas dont on lui soumet, si effectivement l'individu qui en fait la demande, au regard de la moralité, etc., d'un certain nombre d'éléments, est apte à posséder une arme. Bon, il en fait la demande. Je ne connais pas sa vie privée, mais manifestement, au travers de ce qu'il a pu dire ce matin, on sent bien qu'il y a quand même une menace sur sa personne et que l'autorité administrative, en l'occurrence le préfet de police, a jugé utile de lui délivrer un port d'armes. Partant oui, de ce principe...
C'était dans le cadre de son activité.
Oui, mais ce qu'il dit ce matin, mais ce que je retiens en droit, ce que je retiens en droit, en tout cas, la manière dont lui, il présente sa demande et le préfet de police, lorsque lui décide de lui attribuer, il décide de lui attribuer au visa d'un centre de disposition, notamment sur son rôle dans le cadre de la coordination de la sécurité.
Vous, ça ne vous surprend pas tout ça oui.
Bah, moi, je connais bien le dispositif d'autorisation de détention ou de port d'armes, parce que ce n'est pas la même chose. Et vous avez un centre de personnalités exposées à une menace grave et imminente qui bénéficie aujourd'hui.
Le fonctionnaire de la préfecture qui a été entendu juste après et qui lui défend son bout de gras en se disant qu'il a tout intérêt à figer le moment où effectivement on a remis à Alexandre Benalla un permis de port d'armes. Ce permis, il a démenti Alexandre Benalla en disant Alexandre Benalla n'avait absolument pas l'autorisation effectivement de circuler à des fins personnelles avec son arme.
Ce n'est pas la même chose.
Il ne l'avait que dans le cadre. Permis de port d'armes, pardon,
Il y a la détention d'armes et il y a la circulation avec son arme, notamment dans les déplacements du président de la République qui ne sont pas autorisés. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que le préfet, c'est discrétionnaire. Le préfet de police peut autoriser de manière discrétionnaire. Il y a des choses qu'il peut faire avec son arme. Il peut l'emporter dans certains endroits et pas dans d'autres. Et donc, il l'a reconnu ce matin en disant qu'effectivement, à 2-3 reprises, il avait porté son arme et il n'en avait pas le droit.
En tout cas, vous constatez que des questions qui étaient posées ce matin n'ont toujours pas trouvé de réponse définitive. On va poursuivre sur le sujet 20h20 sur France Info. Tout d'abord, le rappel de l'info avec vous, Claire Flochel.
L'annonce d'une visite historique, Kim Jong-un annonce qu'il se rendra à Séoul dans un avenir proche. Ce serait la première visite d'un leader nord-coréen depuis la fin de la guerre de Corée il y a 65 ans. Kim Jong-un qui a également accepté la visite d'inspecteurs internationaux sur les sites de fabrication de missiles. La nation rendait hommage aux victimes du terrorisme cet après-midi aux Invalides à Paris. Cérémonie annuelle présidée par Emmanuel Macron qui a confirmé la création d'un musée mémorial d'une prochaine journée de commémoration nationale, ainsi qu'une amélioration de la prise en charge des victimes. Une enquête ouverte par le parquet de Paris après une agression homophobe dans le 20e arrondissement. Un jeune homme insulté et frappé à coups de casque par un groupe de jeunes, a-t-il indiqué aux policiers, alors qu'il se trouvait devant un théâtre parisien avec son compagnon. La victime a posté une photo de lui sur les réseaux sociaux, le visage tuméfié. « J'ai porté plainte », dit-il, « pour que ces violences cessent enfin, même si je savais qu'un jour ça m'arriverait ». Et puis Rafael Nadal, toujours blessé au genou droit, le numéro 1 mondial sera donc forfait pour les tournois de Pékin et Shanghai au début du mois prochain. Une blessure qu'il avait contraint à abandonner en demi-finale de l'US Open, puis à renoncer en Coupe Davis face à la France.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors l'audition n'a pas éteint le bras de fer entre l'Élysée et le Sénat. Voici la charge de Benjamin Griveaux au sortir du Conseil des ministres qui a eu lieu en même temps ce matin et la réponse à distance sur Public Sénat du président de la commission d'enquête Philippe Bas.
Sans doute est-il heureux de s'exprimer assez peu dans la presse tant que la commission n'a pas poursuivi ses travaux jusqu'à son terme. C'est la plus élémentaire des déontologies que d'être le président impartial d'une commission d'enquête parlementaire.
J'ignorais que M. Benjamin Griveaux fût professeur de déontologie et par conséquent, laissons-lui la responsabilité de ses propos.
Alors je rappelle que Philippe Bas était au micro de Marc Fauvel, notamment dans le studio de France Info juste avant cette audition ce matin. Jean-Sébastien Ferjou, Benjamin Griveaux a le droit de lui reprocher cette exposition médiatique ?
Est-ce qu'il a raison ? Ce qu'il veut. Après, en termes de communication, moi, je pense que c'est une erreur absolue. Les Français, je pense, en ont assez de l'affaire Benalla, même s'ils trouvent justifié, c'est ce que montrent les enquêtes d'opinion, que la commission d'enquête existe. Mais encore une fois, je pense que plus personne ne comprend rien à cette histoire-là et qu'on ne sait même pas quelle est la vérité qu'on cherche à établir. Est-ce que c'est sur ces questions d'armes? Est-ce que c'est sur les événements du 1er mai? Est-ce que c'est sur la manière dont l'Élysée a géré ou pas la sanction concernant Alexandre Benalla? Donc je pense que au contraire, l'Élysée devrait se taire, attendre que la vague passe et cesser de remettre une pièce dans la machine de
ce que fait
de cette arrogance permanente.
Griveaux,
parce que ceux qui jouent dans l'affaire Benalla, au-delà de ce qui s'est passé le 1er mai et au-delà de la procédure de sanction et de la manière dont elle a été réalisée, c'est le mode de gouvernance d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, quand on regarde les commissions d'enquête parlementaire, les questions qu'on entend, c'est est-ce que l'Élysée fonctionne correctement? On peut considérer qu'il y a une forme de rébellion de l'État, de la police, des gendarmes, mais pas seulement. On peut le voir aussi avec la préfectorale, on peut le voir, on l'a vu avec un directeur d'administration centrale qui a publié un communiqué public, ce qui est très rare, en prenant parti contre le gouvernement à propos du prélèvement à la source. Il y a une centralisation du pouvoir comme on n'en a jamais connu. C'est ça qui se joue aussi dans l'enquête sur l'affaire Benalla. Mais simplement ça, c'est très distant pour les Français. C'est loin. Et donc, je ne comprends pas l'insistance du gouvernement, que ce soit Emmanuel Macron en ayant eu des phrases aussi délirantes qu'il vienne me chercher, ou que Madame Belloubet en soutenant Alexandre Benalla, alors qu'on a entendu ensuite hier Madame Borne, ou lu Madame Borne dans Le Parisien, dire que le chauffeur de bus, elle trouvait ça quand même scandaleux qu'il gifle un jeune. On aimerait bien comprendre pourquoi la ministre des Transports trouve scandaleux qu'un chauffeur de la RATP gifle un jeune et qu'un collaborateur de l'Élysée, lui, aurait le droit d'aller gifler des gens dans la rue. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même jeune. Enfin, je trouve qu'ils se noient dans une communication désastreuse, alors qu'il leur suffirait d'attendre de passer à autre chose et que les Français, justement, passeraient eux aussi très vite à autre chose parce qu'ils en ont assez.
Ouais. Alors, Isabelle Vera-Masson, est-ce que, qu'on a vu avec ce montage de Gilles Bornstein, est-ce que ça ne se résume pas finalement qu'à un affrontement politique classique, cette histoire?
Alors, il y a de l'affrontement classique, évidemment, mais je crois quand même que depuis le début de l'affaire Benalla, le gouvernement tâtonne, ne sait pas comment communiquer. Alors, pour le coup, en dehors de toutes les questions politiques, après, on voit bien comment la droite s'est emparée, a joué son rôle d'opposition, la gauche aussi, etc. Mais au-delà de ça, le gouvernement a alterné les stratégies de communication. Et dans un premier temps, vous vous souvenez que le président de la République n'a pas parlé, oui. Probablement, ce que pour lui, c'était pas une affaire, ça n'existait pas. Ensuite, il a, à mon avis, assez durement taclé Alexandre Benalla. D'une certaine manière, il donnait de quoi à l'opposition des éléments pour se faire... peut-être aurait-il dû dire tout de suite Benalla est un bon garçon, c'est pas un voyou, etc. Et puis, on voit bien récemment que tout le gouvernement a décidé de se mettre derrière Alexandre Benalla, de plaider l'indulgence et en attaquant le Sénat et les commissions. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux et je pense qu'ils ont dû réfléchir, regarder les sondages et comprendre que les erreurs qui ont été faites ont été corrigées. En tous les cas, on ne comprend rien. Je suis totalement
d'accord.
Avec vous.
Hein.
Personne ne comprend rien et on ne comprend pas non plus la stratégie de communication. Ce que l'on peut dire avant, quand même, à la fin des fins, c'est que c'est une catastrophe communicationnelle. Parce que quand vous regardez les sondages par rapport à cette histoire, qui me semble une toute petite histoire, un fait divers mal géré, et pas beaucoup plus que ça, c'est une catastrophe politique, à la fois pour le gouvernement, mais également, à mon avis, pour les institutions et pour la vie politique française.
Audrey Goutard, à ce sujet, mal géré, cher payé.
Il faut, en prenant un peu de recul, il faut quand même souligner que, généralement, les affaires comme celle de comme l'affaire Benalla se réglaient un petit peu entre soi, entre l'Élysée, il y avait un article dans Le Canard, etc. Il y a quelques années, ça se passait comme ça. Aujourd'hui, vous vous retrouvez à peine 15 jours après les événements avec une commission parlementaire, des députés qui veulent des comptes immédiatement, les protagonistes, y compris des membres de l'Élysée, entendus publiquement avec toutes les télés, toutes les chaînes d'infos qui répercutent leurs propos et avec toute la complexité que ça a, puisqu'on a vu effectivement des hauts fonctionnaires qui se contredisaient, des hauts fonctionnaires qui disaient une vérité le lendemain une autre. Donc, en termes de communication, il est, j'imagine, pour l'Élysée, extrêmement compliqué de trouver une stratégie, parce que ça sera obligatoirement une nouvelle stratégie.
Oui,
Thérèse Haïtou, c'est le dernier mot là-dessus.
C'est quand ce qu'elle varie.
Oui, non, il a bien fait d'y aller finalement ce matin.
Oui, je pense qu'il a bien fait d'y aller, mais ce n'est que la conséquence à un moment donné d'une succession d'événements très mal gérés, aussi bien de la communication de la part de l'Élysée que ce ministre de l'Intérieur et du préfet de police qui se succèdent et qui se contredisent et qui pointent chacun leurs responsabilités l'un vers l'autre et qui fait qu'aujourd'hui on est dans une situation qui est une situation catastrophique pour le gouvernement et pour les institutions.
Allez, dans un instant, nous nous retrouvons pour la suite des informés. Ce sera après la météo et le rappel de la fin.
L'apocalypse, c'est pas l'histoire des morts qui sont ressuscités, commandant.
Ah, c'est l'histoire de la fin des temps, Carpentier. La fin de tout. Les vivants, les morts, la gendarmerie. Tout ça, ça se termine. Vous comprenez ?
Coin Coin et les Inhumains, la suite de la série culte Tiquinquin de Bruno Dumont, à voir demain soir à 20h55 sur Arte et à revoir sur arte.tv. Arte, ouverture permanente.
Cécile est assistante et cliente Hyperbureau. Et quand elle s'assoit sur la chaise cassée de son salon, elle craque.
Chérie, tu comptes la réparer un jour, cette chaise ?
Chez Hyperbureau, nous lui donnons ce petit conseil. Cécile, vous seriez bien mieux au boulot. Siège, mobilier, informatique, fourniture de bureau. Cécile améliore son confort et prend soin de son dos.
Hyperbureau. Hyper pro. Hyper proche.
Mes amis, au secours.
L'abbé Pierre a laissé un héritage inestimable. Faites comme lui. Poursuivez son action auprès des plus pauvres, en léguant toute ou partie de votre patrimoine, en souscrivant une assurance vie ou en faisant une donation en faveur de la Fondation Abbé Pierre. Demandez une brochure ou prenez rendez-vous au 01 55 56 37 27. Plus d'infos sur fondationabbépierre.fr.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants au grand confort d'écriture. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez tous les stylos Pilote sur pilotepen.fr.
La météo, les prévisions avec vous, Sébastien Léas pour Météo France.
Le programme de demain est à nouveau ensoleillé sur une large moitié est et dans le sud-ouest, même si quelques grisailles matinales se feront encore remarquer au sud de la Garonne. Une évolution orageuse est à nouveau possible demain après-midi sur la Corse, voire sur le Mercantour. Entre la Bretagne et la Basse-Normandie, le ciel sera couvert demain matin. La couche nuageuse va un peu se morceler, mais de nouveaux nuages vont envahir le ciel, rendant l'après-midi encore nuageux, avec même quelques gouttes vers le Finistère. Sur le reste du nord-ouest, après une matinée nébuleuse, les éclaircies vont s'élargir et seront prédominantes l'après-midi. Demain sera la dernière journée très chaude, avant une baisse des températures attendue sur de nombreuses régions pour vendredi. Les maximales seront comprises entre 20 et 31 degrés sur la moitié nord et entre 24 et 34 degrés sur les régions du sud.
France Info.
De poids, ouvrez l'info.
France Info, il est 20h30, toute l'info avec vous. Bonsoir, mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. On en sait un peu plus ce soir sur les suppressions de postes annoncées à l'Éducation nationale. Avant-hier, Jean-Michel Blanquer annonçait que 1800 postes au total seraient supprimés l'année prochaine dans son ministère. Mais ce n'était en fait que le solde, le calcul du plus et du moins. Le ministère donne aujourd'hui le détail de ces coupes à venir. Le second degré sera encore plus touché qu'attendu. Alexis Morel.
Le collège et le lycée vont bien concentrer les suppressions, avec 2600 postes de profs en moins l'an prochain dans le public. À cela s'ajoutent 600 suppressions dans l'enseignement privé et 400 dans les services administratifs des établissements. Dans le même temps, 1900 postes seront créés à l'école primaire. Jean-Michel Blanquer le répète depuis la rentrée, il veut mettre le paquet sur les petites classes, poursuivre le dédoublement des CP-CE1. Ces choix budgétaires en seraient donc la traduction. La priorité au primaire au détriment du second degré. Au collège, au lycée, on craint des classes surchargées avec ces postes en moins. Pas d'inquiétude, répond le ministre, ce sera compensé par les heures supplémentaires selon lui. Il veut inciter les enseignants à en faire davantage. L'équation va tout de même rester compliquée alors que le nombre d'élèves doit continuer d'augmenter dans le secondaire jusqu'en 2022.
Alexis Morel, 2 heures d'audition devant la commission du Sénat pour Alexandre Benalla. Alors qu'il avait menacé de garder le silence, l'ex-collaborateur de l'Élysée s'est au contraire montré très loquace, tentant de se disculper, assurant qu'il n'était pas le garde du corps d'Emmanuel Macron, même s'il lui arrivait d'être armé lors de déplacements officiels. Mais apparemment, sans convaincre vraiment les parlementaires, et puis hasard du calendrier, le manifestant de la place de la Contrescarpe, le 1er mai, et sa compagne ont été entendus par les juges d'instruction aujourd'hui. Ils ont reconnu avoir jeté des projectiles, mais nié toute appartenance à un groupe violent. Si l'on en croit leur avocat. La journaliste Élise Lucel l'avait qualifié de dictature dans son émission Cash Investigation. La justice française confirme que l'Azerbaïdjan ne peut engager de poursuite en diffamation, à l'instar de tout autre État. Une femme l'accusait d'un comportement indécent et d'agression sexuelle sur sa fille. Un prêtre de 38 ans s'est donné la mort dans son église à Rouen aujourd'hui. Le cri d'alarme de l'ONG Save the Children, l'organisation britannique, affirme que plus de 5 millions d'enfants sont menacés d'une famine d'une ampleur sans précédent au Yémen, alors que le conflit s'aggrave et que les prix de la nourriture et du carburant s'envolent. L'ONU parle de la pire crise humanitaire au monde. La guerre a déjà entraîné la mort de 2200 enfants, selon l'UNICEF.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités Audrey Goutard, journaliste à France 2, présentatrice de l'Instant T sur France Info, avec Driss Saïd Youssef, président de l'Institut Léonard de Vinci, docteur en droit, spécialiste de sécurité globale, avec Jean-Sébastien Ferjou, cofondateur et directeur de la publication Atlantico.fr, avec Isabelle Véramasson, directrice du laboratoire communication et politique du CNRS à l'Université Paris-Dauphine. Alors, loin du tintamarre de l'audition de Monsieur Benalla, Emmanuel Macron, accompagné de son épouse, est allé rendre hommage cet après-midi aux victimes du terrorisme dans les jardins des Invalides. Le chef de l'État s'est exprimé lors de la 19e cérémonie organisée par l'Association française des victimes du terrorisme et la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, et il a fait une annonce en faveur d'une meilleure prise en charge des victimes.
D'ici la fin de l'année, je souhaite que soit ouvert le Centre national de ressources et de résilience évoqué par Françoise Rudetsky dans son rapport de février 2017 et qui doit permettre d'améliorer la connaissance que nous avons des psychotraumatismes et donc d'accompagner mieux les victimes, leurs proches et notamment ceux qui n'ont pas encore les défenses psychiques suffisantes pour se défendre et donc se reconstruire. Je veux dire les enfants.
Alors, un centre, Audrey Goutard, un centre national de ressources et de résilience, concrètement?
Concrètement, c'était une demande depuis très longtemps des associations. C'est vrai que tout à coup, le terrorisme se réinvite à la table. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. C'est vrai que les victimes, c'est les victimes du terrorisme. Globalement, ce sont des victimes qui sont abîmées et psychologiquement et physiquement, et c'est ce que disent toutes les associations pendant de longues années. Le président parlait d'ailleurs des enfants. Donc il fallait une structure, si vous voulez, qui prenne en charge globalement les victimes directes, mais aussi les descendances.
Oui.
Donc cette demande a été faite depuis très longtemps, et voilà, le président y répond à l'évidence et rappelle que la sécurité de notre pays n'est pas encore assurée, évidemment.
Oui, alors faut-il le rappeler, hein, ces attentats depuis 2015, Driss Saïd Youssef, vous me corrigez, ont fait 246 morts, sans parler des blessés, des traumatismes divers. Ce sujet est toujours au cœur des préoccupations des Français.
Oui, toujours au cœur des préoccupations, parce que c'est un sujet qui touche directement l'individu, donc on le voit bien, ça a été dit, vous avez effectivement les victimes physiques, donc à la fois ceux qui sont morts, hélas, et donc il faut aussi pouvoir prendre en charge les enfants, les parents proches, etc. Et vous avez donc les victimes physiques et les victimes psychiques. Et par exemple, quand vous prenez l'attentat de Nice, où vous avez 86 morts et vous avez des centaines de blessés, vous avez aussi un certain nombre d'individus nombreux, blessés psychiques, qui ont vu passer un camion à côté et qui resteront marqués à vie. Et toute la question est de dire aujourd'hui comment on prend en considération, d'abord sur le degré de prise en compte effectivement de la victime, est-ce qu'il est victime ou pas victime. D'abord, il faut qu'il puisse prouver qu'il était bien là, etc. Et puis ensuite, quel niveau de prise en charge l'association, parce que c'est l'association qui est aussi alimentée par l'État, l'association va pouvoir offrir comme prise en charge et sur le plan financier d'accompagnement psychologique. C'est un véritable enjeu pour nos institutions, étant entendu que les moyens financiers manque énormément à ces associations.
Toujours, toujours.
Toujours,
oui. Jean-Sébastien Ferjou, vous avez l'impression, le président a souhaité également la mise en chantier d'un musée mémorial, vous avez la sensation que le pays tout entier reste mobilisé face à ces questions?
Ça reste évidemment un sujet qui est présent en arrière-plan. Après, on a sorti un sondage réalisé avec l'IFOP sur Atlantico récemment qui montrait que cette préoccupation-là, la préoccupation du terrorisme ou de la sécurité au sens large, qui était très prégnante il y a 6 mois ou il y a 18 mois, l'est un peu moins maintenant. Maintenant, ça reste quand même au tout premier rang des préoccupations. Mais c'est vrai qu'on est moins dans une phase aiguë. Maintenant, ça ne change rien à la situation des victimes. Alors le musée, j'en pense rien particulièrement. Malgré tout, on évoquait des questions budgétaires. Peut-être serait-il plus utile de diriger ces fonds-là vers le centre de résilience. Enfin, j'ai oublié le nom, mais ce dont on parlait juste avant.
Centre national de ressources et de résilience.
Parce que ça n'est pas du gadget. Il y a un besoin qui est incontestable. Et il y a aussi des manières de prendre en charge ce type de traumatisme. Vous savez qu'on appelle, je me souviens jamais comment on dit en français exactement, mais PTSD en anglais, enfin les chocs post-traumatiques, et qui sont des symptômes qu'on sait maintenant gérer. On sait délivrer les gens d'une forme de souffrance. Alors ça n'est jamais, c'est pas une baguette magique, mais il y a moyen vraiment d'aider les gens. Et il n'y a pas seulement les gens qui étaient témoins, il y a aussi les entourages, et il y a parfois même des gens qui sont victimes de troubles de cette manière-là en ayant regardé leur télévision. Alors que pris dans l'autre sens, des gens qui étaient présents sur des lieux d'un attentat peuvent avoir été choqués puis finalement se reconstruire assez vite. Mais quoi qu'il en soit, incontestablement, il y a un besoin là-dessus. Maintenant, ce qui est un peu surprenant, c'est que c'était quand même une politique qui avait été engagée pendant le quinquennat précédent, notamment avec Juliette Méadel, qui avait été nommée secrétaire d'État.
À l'aide aux victimes.
À l'aide aux victimes, absolument. Que ça a été déconstruit et qu'on est en train de revenir dessus. Était-il vraiment utile de faire un pas de deux ? À l'arrivée, l'important est qu'on avance maintenant.
Isabelle Vérin-Masson, avec ses annonces sur ce sujet grave, vous avez la sensation que le président de la République, au fond, prend du champ, s'échappe des polémiques qui polluent sa rentrée ?
Oui, alors c'est vraiment l'ancien monde, hein, le fait de commémorer, de prévoir des grands travaux et sur les questions de mémoire collective et de commémoration. Bon, on vient de voir qu'il a pris une position sur une victime de la guerre d'Algérie. Donc voilà, et puis il avait déjà pris un certain nombre de positions. Il se remet effectivement dans les chemins de ses prédécesseurs, pour qui la commémoration, l'élévation de monuments a toujours été une politique importante. Mais c'est vrai, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il a quand même supprimé le secrétariat d'État de Juliette Méadel, et peut-être que cela aurait été peut-être plus utile de garder ça, en tous les cas.
Vous êtes d'accord avec ça, Audrey Goutard ? Peut-être qu'on aurait dû rester sur la trajectoire précédente.
C'est dû en même temps contradictoire.
Oui, c'est ça. En fait, moi, je suis d'accord avec ce que disait Jean-Sébastien. Oui, c'est ça.
C'est bien mon nom, Audrey.
Pardon. Oui, donc oui, l'essentiel, c'est le résultat. C'est-à-dire que voilà, on arrive à un résultat qui peut être satisfaisant, en tout cas qui répond à une demande des associations. L'essentiel est là.
Alors, 20h40 sur France Info, on va en dire encore quelques mots, parce que j'ai une question subsidiaire à vous poser à propos des questions de sécurité. Mais tout d'abord, le rappel de l'info avec vous, Claire Flochel.
Le couple violenté par Alexandre Benalla le 1er mai à Paris, entendu par les juges d'instruction pour la première fois aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, l'ancien chargé de mission de l'Élysée était auditionné par la commission d'enquête sénatoriale. Les sénateurs ont balayé tous les champs de l'affaire, son port d'armes, ses relations avec Emmanuel Macron et son rôle précis à l'Élysée, tout sauf ses agissements le 1er mai, un point qui relève de la seule justice. 2600 postes seront supprimés l'an prochain au collège et au lycée, et environ 1900 créés dans le primaire. La précision cet après-midi du ministère de l'Éducation nationale. Le ministre Jean-Michel Blanquer avait annoncé lundi que le nombre de postes diminuerait au global de 1800 en 2019. Theresa May estime que c'est au tour des Européens de faire évoluer leur position pour débloquer les négociations du Brexit. Déclaration de la première ministre britannique à son arrivée ce soir en Autriche, où les 28 dirigeants de l'Union européenne se retrouvent pour un sommet informel. Theresa May a aussi une nouvelle fois catégoriquement proscrit l'organisation d'un nouveau référendum sur le Brexit. Le bilan du puissant typhon qui a déferlé sur les Philippines revu à la hausse, au moins 81 morts, mais les autorités préviennent que les secouristes recherchent toujours des dizaines de personnes ensevelies sous la boue. Et puis la Ligue des Champions suite ce soir, Lyon joue sur le terrain de Manchester City, c'est à 21h à l'affiche dans 20 minutes également, Benfica, Bayern Munich, Real Madrid, AS Rome et puis Valence, Juventus Turin.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors la menace terroriste persiste, on l'a dit, il était important d'aborder ce sujet, mais il y a une question qui est quand même posée aujourd'hui, je me tourne vers vous Audrys Aït-Youssef pour commencer. Qui pour piloter la lutte antiterroriste place Beauvau ? Vous le savez, l'annonce par Gérard Collomb lui-même dans les colonnes de l'Express de sa propre sortie du gouvernement pour aller mener des élections municipales à Lyon en 2020, eh bien pose le problème de son maintien ou pas au ministère de l'Intérieur selon vous ?
Moi je pense que c'est une très bonne chose que Gérard Collomb quitte le ministère de l'Intérieur.
Le problème, c'est que c'est pas tout de suite, quoi. C'est
oui,
pas demain
matin. Ça serait ouais. bien que ce soit tout de suite. Donc, si vous voulez, mon sentiment. Non, je pense que à côté de ça, le ministère de l'Intérieur est une vraie mission extrêmement difficile, parce que en pleine réforme, à la fois révision de la Constitution et des relations tendues avec les collectivités, et puis avec la menace terroriste qu'est la nôtre aujourd'hui, il nous faut pas un, mais peut-être plusieurs personnalités au ministère de l'Intérieur capables à la fois d'assurer une vraie relation avec les élus locaux qui doutent, notamment les départements, les présidents de départements, les présidents de régions, avec des dotations globale de fonctionnement qui baisse beaucoup, de pouvoir établir une relation de confiance, et puis d'un point de vue aussi sécuritaire, où aujourd'hui on a une architecture de sécurité intérieure qui, faut le dire, ne fonctionne plus du tout. Donc il faut être lucide par rapport à ça. Il faut être lucide par rapport à ça. Vous avez des améliorations en termes de moyens depuis les attentats du mois de novembre, la police judiciaire a massivement été équipée, les gendarmes également, mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est aussi en termes de sécurité publique, et régulièrement vous avez un de rapports qui pointent effectivement une hausse assez importante, notamment des violences gratuites, etc. Et donc, c'est aussi un sujet qu'il faut aborder. La relation avec les élus, elle est importante. Et donc, moi, je considère, à titre un petit peu personnel, mais ça n'engage que moi, qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, ministre d'État, Gérard Collomb, pour moi, n'a pas été efficace au ministère de l'Intérieur.
Audrey Goutard, vous partagez ce point de vue. Est-ce que vous pensez que Gérard Collomb peut attendre, je crois, 8 mois pour aller ensuite mener campagne ? Est-ce qu'il doit partir tout de suite ?
Ce qui est sûr, c'est que le ministère de l'Intérieur est un job à plein temps. Moi, j'ai souvent suivi les ministres de l'Intérieur. C'est un job à plein temps, un job sous tension, où vous êtes ballotté finalement par les événements. Un attentat, un accident. J'ai juste une observation à faire, c'est que le ministre portait depuis longtemps le thème de la police au quotidien. Le jour où il lance sa police au quotidien, donc avec conférence de presse, etc., il sort en même temps cet article dans l'Express qui pollue complètement, si vous voulez, sa communication sur la police au quotidien.
Il était contre la police de sécurité du quotidien.
Oui, mais enfin bon, il la porte puisque c'est un ministre de l'Intérieur. Donc voilà. Donc dans cette situation, si vous voulez, il a fait effectivement un choix qui est un choix d'homme politique. Il n'a pas fait le choix d'un choix de ministre de l'Intérieur.
Jean-Sébastien Ferjou, c'est une équation compliquée pour le chef de l'État, non ?
Oui, parce que je pense que dans le choix de Gérard Collomb, il y a des considérations qui dépassent de très loin ce qui se passe ou pas au ministère de l'Intérieur. Et je suis assez d'accord avec le fait, par ailleurs, qu'il n'a jamais véritablement occupé le job à temps plein et qu'il y a quand même une forme de triste ironie à entendre parler beaucoup de police de sécurité du quotidien quand on voit que dans plus en plus de quartiers, il y a des fusillades, il y a des gens qui tirent à la Kalachnikov et que je doute que la police de sécurité du quotidien soit vraiment le meilleur moyen d'y répondre. Et je crois pas non plus que Gérard Collomb ait particulièrement géré les enjeux liés au terrorisme, même s'il y a eu une véritable réorganisation et meilleure organisation depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé avec la task force qu'il a mise en place. Mais effectivement, c'est une équation impossible, parce qu'on voit bien que là, Gérard Collomb, c'est une espèce de droit de bras d'honneur qu'il fait en quelque sorte au président de la République. Jamais un ministre n'annonce de lui-même la date de son
départ.
C'est
assez nouveau.
Mais c'est une espèce de Nicolas Hulot. Alors, on a eu la démission en direct qui n'était pas préméditée, et là, c'est le crash en vitesse ralentie, en quelque sorte. Mais évidemment que c'est une équation incroyablement compliquée, parce que pendant ce temps-là, quand vous avez dit que vous partez, votre autorité politique, elle n'existe plus, et ça n'est pas comme si Gérard Collomb s'était révélé un ministre de l'Intérieur véritablement capable de se faire respecter de ses services. Donc oui, c'est une équation. Et je vais vous dire, le plus inquiétant pour Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas véritablement de candidat pour le remplacer. Parce que ça montre ce qu'est justement la Macronie. C'est-à-dire que s'il s'agissait de remplacer le ministre de l'Économie et des Finances ou le ministre du Budget, il aurait vraisemblablement quelqu'un, ou probablement même le ministre de la Santé. Ouais. Mais pour l'Intérieur, parce que justement, ça n'est pas le vieux monde et ça n'est pas toute la politique et toute cette compréhension qui n'est pas que technique et technocratique, ils n'ont pas de candidat. D'ailleurs, ils sont allés solliciter, comme vous le savez, Frédéric Pechnard, entre autres, qui a longtemps été proche de Nicolas Sarkozy, tant ils sont désemparés. Donc l'équation, elle est vraiment difficile parce qu'il faut trouver le bon candidat et ils ne l'ont pas en rayon. Et par ailleurs, politiquement, c'est compliqué d'assumer cet espèce de bras d'honneur que fait Gérard Collomb au président.
Isabelle Vera-Masson, encore une séquence compliquée et qui ne fonctionne pas en termes de communication.
Alors, en tous les cas, c'est probablement effectivement une mauvaise façon faite par Gérard Collomb à Emmanuel Macron. On peut difficilement dire le contraire, dans la mesure où ça se passe après le départ de Nicolas Hulot. On voit bien, tout le monde voit bien qu'il y a là une séquence et qui peut-être n'est pas totalement indépendante des mauvais chiffres, des mauvais résultats du président de la République. Je dirais pas les rats quittent le navire, mais enfin ça fait un petit peu quand même un drôle d'effet. C'est probablement le ministre annonçant qu'il va partir perd d'une certaine manière de sa crédibilité en tant que ministre. Il signale un certain mécontentement et une mauvaise humeur. Et on, effectivement, on se demande s'il va pouvoir tenir encore un an ou presque. Allez, c'est ça la question.
Allez, à suivre à présent la révélation à la une du Canard enchaîné. Ça va vous intéresser. 410 000 euros de limousine pour l'ex numéro 1 du Grand Palais. Titre spectaculaire. L'hebdomadaire s'appuie sur un rapport confidentiel de la Cour des comptes. Il cible Jean-Paul Cluzel, qui a jadis dirigé Radio France avant de présider l'établissement public du Grand Palais jusqu'en janvier 2016. Épinglé donc pour des frais de location de limousine et de taxi, Jean-Paul Cluzel a contesté la somme avancée qui couvre une période de 5 années cumulées.
La vérité, c'est 5 600 euros par mois de la totalité. Encore une fois, le chauffeur, la voiture, l'essence, les assurances, l'entretien, les taxes, voilà tout.
Alors 5 600 euros, chauffeur, carburant, fiscalité, tout compris, c'est exorbitant selon vous, Idriss Saïd Youssef, ou c'est finalement une addition de bûchettes ?
Je remets ça aussi en perspective par rapport à la fois au fonctionnement du Grand Palais et le budget aujourd'hui qu'il faut, parce que le Grand Palais va être en travaux, avec grands travaux, on chiffre en 466 millions d'euros de travaux pendant 3 ans. Toute la difficulté, c'est pas opposer deux cultures, mais on voit bien qu'aujourd'hui la grande loterie de Stéphane Bern, où on cherche pour financer 2000 chefs-d'œuvre, en tout cas en péril, on cherche environ 13 millions d'euros sur un volume global de 54 millions d'euros. On voit bien que j'oppose pas les cultures évidemment, mais il faut essayer d'avoir peut-être un raisonnement un peu plus équilibré, d'avoir une vraie politique culturelle. C'est quoi la culture? Une culture d'abord accessible à tous, c'est pas une culture du Grand Palais seul ou de la Philharmonie de Paris qui a coûté 380 millions d'euros, mais il faut pouvoir avoir une vraie politique culturelle, et j'ai pas le sentiment aujourd'hui qu'on a une vraie politique culturelle. On a un certain nombre de départements en France qui sont, par exemple je prends le département des Hauts-de-Seine avec un président qui est très engagé sur le plan culturel et qui a beaucoup investi et qui vraiment fait en sorte que la politique, en tout cas que sa politique culturelle soit accessible à tous, et puis d'autres qui n'ont pas les moyens. Donc il faut essayer de trouver un juste équilibre sans opposer évidemment les projets et les cultures.
Audrey Goutard, sur ce sujet
Je pense que ce sujet dépasse complètement Jean-Paul Cluzel. En lisant Le Canard enchaîné, je me suis dit, mais bon sang, mais pourquoi est-ce qu'un patron de musée, même grand musée, a un chauffeur? Je suis française j'habite, je travaille tous les jours, etc. Je comprends qu'un grand patron qui effectivement saute d'un avion à l'autre, etc., qu'un ministre et un chauffeur. Mais en quoi c'est très vieille France, non? Moi, c'est ce qui me choque le plus.
Il y a des épouses de ministres ou des conjoints de ministres ou des enfants de ministres qui en bénéficient, ce qui est beaucoup moins justifié que le patron d'une institution culturelle, malgré tout.
Mais je pense que dans regardez nos voisins européens,
les explications de Jean-Paul Cluzel, et après je ne sais pas quelle est la vérité, il dit ça n'était pas que pour lui, c'était aussi ses collaborateurs, c'était aussi quand il y avait des soirées, parce que le monde de la culture c'est aussi un certain nombre de soirées,
c'est un vrai sujet,
etc. Donc le vrai sujet, à mon avis, n'est pas celui-là. Le vrai sujet, c'est le dérapage de 75 millions d'euros des travaux prévus sur le Grand Palais, parce que ça montre une incapacité des structures publiques de maîtriser un budget. C'est absolument pas la première fois, vous avez raison. Et dernière observation, je constate aussi que on aime beaucoup vivre dans un monde de moralisation, mais que finalement la morale est devenue une arme pour abattre les gens. Oui. Parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer là. On voit bien que ce sont des règlements de compte. C'est pas le Canard enchaîné qui a accès aux notes de frais de Jean-Paul Cluzel ou de je ne sais qui. Et faisons attention quand même dans nos croisades pour la morale, parce que ça peut devenir extrêmement pervers d'un point de vue politique.
20h51 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Claire Flochel.
La commission d'enquête sénatoriale a entendu Alexandre Benalla pendant plus de 2h30 ce matin. L'ancien chargé de mission de l'Élysée a répondu à toutes les questions. Il assure n'avoir jamais été le garde du corps du président de la République. S'il portait une arme, c'était pour sa sécurité personnelle. Yann Drouet, l'ancien directeur de cabinet du préfet de police de Paris, lui assure au contraire que l'autorisation lui a été délivrée dans le cadre de ses missions. Le verrou de Bercy en partie supprimé, l'Assemblée nationale a voté aujourd'hui la fin du monopole du ministère du budget en matière de poursuites pénales uniquement pour les plus gros fraudeurs fiscaux. Adoption en première lecture du projet de loi contre la fraude fiscale. Des citoyens vont fouiller demain matin les abords du plan d'eau de la Ballastière au nord de Strasbourg à la recherche d'une étudiante de 20 ans disparue depuis 12 jours. Dans cette affaire, un homme de 58 ans a été mis en examen lundi soir. Des traces de sang de la jeune femme ont été retrouvées à son domicile. Au Yémen, l'intensification du conflit et l'envolée des prix risquent d'entraîner une augmentation considérable du nombre d'enfants souffrant de famine. 5 millions d'enfants en sont menacés selon l'ONG Save the Children. La guerre dure depuis 4 ans au Yémen. Le pays connaît la pire crise humanitaire au monde, selon les Nations Unies. Et puis les obsèques du comédien Jean Piat se dérouleront vendredi en l'église Saint-François-Xavier à Paris. Le monstre sacré du théâtre s'est éteint hier à l'âge de 94 ans.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors nous avons évoqué à l'instant les coûts du patrimoine, les dérapages, et il y a eu le coup de gueule, si je puis dire, l'humeur, allez, c'est
non,
plus élégant, d'Audrey Goutard.
Juste avec nos voisins européens. Oui. Nos voisins européens ne fonctionnent pas de la même manière. Et je trouve que ça fait un peu vieille France,
effectivement.
Ça dépend
si on regarde au nord ou au sud, Audrey.
Ah oui, Isabelle Véramasson, il y a un sujet là, finalement, est-ce que... Il y a des pratiques à changer. On a l'impression qu'on répète ça année après année, et qu'il y a eu le coup de balai des élections, vous savez, le dégagisme de 2017, tous azimuts, pas seulement l'élection d'Emmanuel Macron. Mais on a la sensation, et c'est pas pour accabler telle ou telle personne, qu'au fond, les pratiques ne changent pas réellement. Moi, je suis très, très sensible à l'humeur, si je puis dire, d'Audrey Goutard.
Alors, je ne sais pas si les pratiques ne changent pas, mais en ce qui concerne la transparence, elles changent. Je veux dire, on a des informations, on a des chiffres. Moi, ce qui me gêne plus, c'est que ces chiffres... Enfin, moi, en tous les cas, ne me disent pas grand-chose. Tous ces millions, ça n'a... cet argent...
Ça ne parle à personne. Hein.
Ça ne parle à personne.
Ouais. Et, si 75 millions d'euros, on est capable de se...
On se dit que c'est beaucoup, mais après, on vous donne 70 000 mètres carrés à reprendre. On adore tous le Grand Palais qui n'est pas...
Mais là, on parle d'un dérapage. On ne parle pas du coût dans l'absolu. Coût dans l'absolu, on peut en discuter. Mais on parle d'un dérapage et de l'incapacité structurelle du secteur public dans ce pays à maîtriser ses coûts.
C'est sûr, l'idée du dérapage... C'est pas bien le dérapage, c'est pas bien de dépenser d'argent et d'avoir un... Donc toutes ces questions là sont effectivement gênantes, et en tout cas on ne peut pas dire que c'était comme avant. Avant on faisait tout ça sans en parler. Maintenant on voit que Agnès Sall a payé quand même très cher ses frais de taxi. Ça recommence, et alors du coup elle a l'air d'une petite joueuse quand même, on est quand même très très loin des mêmes dépenses.
Pas quand on lit les explications de M. Cazuzel, encore une fois, qui dit que ce ne sont pas ses dépenses personnelles, mais les dépenses de lui
stratégie de dépense.
Et de son cabinet.
Mais ça, c'est pareil.
Mais c'est quand même pas la même chose.
Mais enfin, en tous les cas, mais c'est vrai c'est facile de dire, il ne doit plus y avoir de chauffeur. Un chauffeur pour une grosse institution, si vraiment il va chercher des gens à droite, à gauche, à la gare de Lyon, à l'aéroport, ça coûte peut-être moins cher que les taxis.
Je parlais le regard des Français sur ce fonctionnement. Ça peut nous... On peut expliquer pourquoi, effectivement, et qu'il prête son chauffeur à ses collaborateurs, etc. Mais aujourd'hui, dans une France où on voyait 20% de la population est en précarité, voir je vous dis, c'est pas vraiment un coup de gueule, parce que je n'ai rien contre Monsieur Cluzel, et c'est pas lui que je mets. Je souligne juste le fait que ce qui paraissait une évidence auparavant, aujourd'hui est peut-être moins évident. C'est-à-dire qu'il est moins évident que les hauts fonctionnaires, lorsqu'il n'y a pas des nécessités de service évidentes, circule en voiture de maître ou effectivement est un chauffeur.
Alors on n'aura pas le temps, évidemment, vous l'avez compris, d'aborder les nouvelles offres qui se dessinent entre SFR notamment et Canal+ à propos des droits du football. On le fera après le match de Lyon à Manchester City. Drissa Itoussef, au sujet de ces dérapages financiers, de cette valse des chiffres, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, parce que je pense que c'est aussi important de remettre les choses en perspective, à la fois sur les explications qui ont été apportées. Bon, c'est vrai que ce sont des pratiques un peu anciennes, et donc il faut inciter ou plutôt imposer, en tout cas c'est responsable d'avoir une gestion en bon père de famille. Après, à côté de ça, il faut aussi remettre en perspective sur les coûts, et je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit sur les coûts, sur les dépassements. On prend la Philharmonie de Paris, où on estimait les travaux à 173 millions d'euros, et la facture définitive c'est 380, Et puis, à côté de ça, on regarde le pauvre Stéphane Bern qui se bat avec sa loterie et qui peine à collecter 13 millions d'euros. Je pense que c'est, quand on dit ne pas opposer deux cultures, en tout cas deux France, celle du Paris intramuros, c'est celle du reste de la France, parce qu'on est quand même un très beau pays avec des chefs-d'œuvre qu'il faut savoir préserver. Et donc, c'est aussi une question politique. C'est aussi une question politique. Alors, c'est vrai que les 466 millions d'euros de rénovation du Grand Palais, ce ne sont pas que des fonds publics, il y a du mécénat, etc. Donc, on fait appel à un centre de financement. Mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi une question politique. Quelle culture voulons-nous pour les Français demain ?
Jean-Sébastien Ferjou, je crois que la somme qui est avancée pour Stéphane Bern, c'est 20 millions d'euros pour tenter de sauver 250 monuments sélectionnés.
Sur 2000.
Oui, les gens entendent ça en fait, non ? On compare les chiffres, c'est obligatoire.
Oui, mais il y a beaucoup de choses à dire sur la question du patrimoine. Après, moi, je regarde ce qui se fait pour le coup ailleurs, et notamment dans le monde anglo-saxon. Il y a des gens riches qui participent, c'est leur manière de restituer à la communauté, qui financent les musées, qui financent des expositions, qui financent l'entretien du patrimoine. Ça me paraît pas totalement absurde, d'autant qu'il me semble qu'il y a une forme de crispation identitaire en France qui fait qu'on a tendance à nommer patrimoine, y compris des choses à côté desquelles on serait passé sans les regarder il y a encore 10 ans.
Allez, merci à vous, Jean-Sébastien Ferjou. Merci, Audrey Goutard. Merci, Driss Aitius. Et vous-même, merci Isabelle Vera Masson d'avoir participé à ces informés de France Info. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain soir, même heure, même punition, sur France Info, Radio et Télé, les informés. Merci à vous.